L'Esprit du Seigneur ne se promène pas seulement dans les cimetières. Ceux qui le connaissent peuvent le rencontrer partout, fût-ce en enfer, et il dit lui-même que le feu marche devant sa face. 25 mai 1887. Clotilde est seule à la maison. Son mari l'a quittée depuis plusieurs heures. Le livre qu'ils ont fait ensemble est achevé, enfin. Il est même imprimé et va être mis en vente. Succès probable et fin probable de la misère. Léopold rentrera très tard. Il lui fallait dîner chez son éditeur et voir encore d'autres gens dans la soirée. Qu'il vienne quand il pourra et quand il voudra, le bien-aimé. Il trouvera sa femme heureuse et sans inquiétude. Tertiaire de Saint-François, elle vient de lire l'Office de Marie aux dernières lueurs du jour, et maintenant elle pense à Dieu en écoutant la douce nuit qui marche. Une paix sublime est en elle. Son esprit agile, délivré, semble-t-il, du poids de son corps, parcourt en une seconde, sans effroi ni peine, les 38 ans de sa vie. Les souvenirs affreux, torturants, elle les accueille avec bonté, comme les martyrs accueillaient leurs tourmenteurs, et son calme puissant leur ôte le pouvoir de la déchirer. Elle se serre amoureusement, se met tout contre le ciel, et se regarde elle-même de loin, à la manière de ceux qui sont en train de mourir. « Qu'ai-je fait pour vous, mon Dieu? C'est à peine si je vous ai supporté jusqu'à ce jour. » Je savais pourtant que vous êtes paternel, surtout quand vous flagellez, et qu'il est plus important de vous remercier de vos punitions que de vos largesses. Je savais aussi que vous avez dit que celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être votre disciple. Le peu que je savais était assez pour me perdre en vous, si je l'avais bien voulu. Souverain Jésus, éternel Christ, Sauveur infiniment adorable, faites de moi une sainte. Faites de nous des saints. Ne permettez pas que ceux qui vous aiment s'égarent. Les routes sont graves et les chemins pleurent parce qu'ils ne mènent pas où ils devraient mener. 9 heures sonnent à l'horloge de l'église. Clotilde compte machinalement et le dernier coup lui semble frapper sur son cœur. Silence complet dans le voisinage. La nuit est devenue tout à fait noire. Et il tombe une odorante pluie tiède. 9 heures, dit-elle à voix basse dans un grand frisson, pourquoi suis-je troublée? Que se passe-t-il donc en cet instant? Elle fait un grand signe de croix qui la rassure, allume une lampe, ferme soigneusement les portes et les fenêtres, suivant la recommandation plusieurs fois répétée de Léopold, qui lui a dit n'être pas sûre de pouvoir rentrer avant minuit. Jamais elle n'a tant désiré qu'il fût là. Cependant, elle n'est pas anxieuse. Elle est même bien loin d'être triste. Mais elle a comme un pressentiment que l'heure qui vient de sonner est une heure formidable. Comprenant qu'elle ne pourrait pas dormir, elle se replonge dans la prière. D'abord, elle appelle avec de grands cris intérieurs la protection divine et la protection de tous les saints sur son absent. Tout ce qu'il y a en elle de sentiments et de pensées, toutes les choses précieuses de son palais saccagé, toutes les gemmes, tous les émaux, toutes les mosaïques, toutes les saintes images, toutes les armures conquises, et jusqu'au voile de ses anciens repentirs, plus inestimable sans doute que le célèbre rideau du sanctuaire de Sainte-Sophie, dont le tissu d'or et d'argent était évalué à 10 000 mines, tout cela est précipitée dans le gouffre d'une obsécration infinie. Puis changement soudain. Elle reçoit dans un éclair la certitude qu'elle est exaucée admirablement. Ruisselante de larmes, son action de grâce remonte des profondeurs. « Je n'ai demandé qu'une chose, murmure-t-elle, c'est d'habiter la maison de Dieu tous les jours de ma vie et de voir la volupté du Seigneur. » Ignore-t-elle que ces paroles sont d'un psaume des morts, ou plutôt devine-t-elle qu'il est nécessaire que ce soit ainsi? Toujours est-il qu'alors l'incendie se déclare, l'incendie des holocaustes spirituels. Bien des fois depuis son enfance, et même dans les heures les plus troublées, bien des fois elle a senti le voisinage de celui qui brûle, mais jamais elle n'a été si atteinte. Cela commence par des étincelles volantes et rapides qui la font pâlir. Ensuite, les grandes flammes s'élancent. Déjà, il n'est plus temps de fuir, si elle en avait seulement la volonté. Impossible de s'échapper, soit à droite, soit à gauche, soit par en haut, soit par en bas. Le courage de 20 lions serait inutile, aussi bien que la force ailée des plus puissants aigles. Il faut qu'elle brûle, il faut qu'elle soit consumée. Elle se voit dans une cathédrale de feu. C'est la maison qu'elle a demandée, c'est la volupté que Dieu lui donne. Longtemps, les flammes grondent et roulent autour d'elle, dévorant ce qui l'environne avec des ondulements et des bonds de grands reptiles. Quelquefois, elle se dresse, rugissante, sous une arche et déferle à ses pieds, se bornant à darder leur langue en fureur sur son visage, sur ses yeux, sur son sein qui fond comme la cire. Où sont les hommes et que peuvent-ils ? Sache, pauvre Clotilde, que cette fournaise n'est qu'un léger souffle de la respiration de Dieu. Peut-être l'Esprit-Saint vous a-t-il marqué de son signe, a dit autrefois le missionnaire. Les inapaisables flammes, devenues assez intenses pour liquéfier les plus durs métaux, tombent enfin sur elle, d'un coup, avec le fracas d'un œcuménique tremblement des cieux. Les fils des hommes, Seigneur, seront enivrés de l'abondance de ta maison, et tu les saouleras du torrent de ta volupté. Le lendemain matin, Paris et la France apprenaient avec terreur l'incendie effroyable de l'Opéra Comique, où fumaient encore 300 ou 400 cadavres. Les premières étincelles avaient voltigé à 9h05 sur l'abjecte musique de M. Ambroise Thomas, et l'asphyxie ou la crémation des bourgeois immondes venus pour l'entendre commençait sous l'odorante pluie tiède. Cette douce nuit de mai fut l'entremetteuse où la courtisane des supplices, des lâchetés, des héroïsmes indicibles. Comme toujours en pareil cas, les âmes ignorées jaillirent. Dans la bousculade sans nom, dans la cohue de ce déménagement de l'enfer, on vit des désespérés s'ouvrir un passage à coups de couteau, et on vit aussi quelques hommes s'exposer à la plus affreuse de toutes les morts pour sauver des notaires de province, des avocates adultères, de nouveaux époux fraîchement bénis par un cocufiable adjoint, des vierges de négociants garanties sur la facture, ou de véridiques prostituées. Enfin, quelques journaux racontèrent la panique histoire d'un inconnu, accouru avec 50 000 curieux, qui s'était précipité, on ne savait combien de fois, dans le volcan, ramenant surtout des femmes et des enfants, arrachant à la justice éternelle un nombre incroyable d'imbéciles, semblables à un bon pirate ou à un démon, pour qui c'eût été un rafraîchissement de se baigner au milieu des flammes, et qui avait fini par y rester, comme dans la maison de son Dieu. Quelqu'un prétendit l'avoir aperçu, la dernière fois, au centre d'un tourbillon, brûlant immobile et les bras croisés. Ainsi fut accompli, en une manière que même la subtilité des anges n'aurait pu prévoir, l'étonnante prédiction du vieux missionnaire. Clotilde a aujourd'hui 48 ans et ne paraît pas avoir moins d'un siècle. Mais elle est plus belle qu'autrefois et ressemble à une colonne de prière, la dernière colonne d'un temple ruiné par les cataclysmes. Ses cheveux sont devenus entièrement blancs. Ses yeux, brûlés par les larmes qui ont raviné son visage, sont presque éteints. Cependant, elle n'a rien perdu de sa force. On ne la voit presque jamais assise. Toujours en chemin d'une église à l'autre ou d'un cimetière à un cimetière, elle ne s'arrête que pour se mettre à genoux, et on dirait qu'elle ne connaît pas d'autre posture. Coiffée seulement de la capuce d'un grand manteau noir qui va jusqu'à terre, et ses invisibles pieds nus dans des sandales, soutenus depuis 10 ans par une énergie beaucoup plus qu'humaine, il n'y a ni froid ni tempête qui soit capable de lui faire peur. Son domicile est celui de la pluie qui tombe. Elle ne demande pas l'aumône, elle se borne à prendre avec un sourire très doux ce qu'on lui offre, et le donne en secret à des malheureux. Quand elle rencontre un enfant, elle s'agenouille devant lui, comme faisait le grand cardinal de Bérulle, et trace avec la petite main pure un signe de croix sur son front. Les chrétiens confortables et bien vêtus, qu'incommode le surnaturel, et qui ont dit à la sagesse « Tu es ma sœur », la jugent dérangée d'esprit. Mais on est respectueux pour elle dans le menu peuple, et quelque pauvresse d'église la croit une sainte. Silencieuse comme les espaces du ciel, elle a l'air, quand elle parle, de revenir d'un monde bienheureux situé dans un univers inconnu. Cela se sent à sa voix lointaine que l'âge a rendu plus grave, sans en altérer la suavité, et cela se sent mieux encore à ses paroles mêmes. « Tout ce qui arrive est adorable, » dit-elle ordinairement, de l'air extatique d'une créature mille fois comblée qui ne trouverait que cette formule pour tous les mouvements de son cœur ou de sa pensée, fût-ce à l'occasion d'une peste universelle, fût-ce au moment d'être dévorée par des animaux féroces. Bien qu'on sache qu'elle est une vagabonde, les gens de police, étonnés eux-mêmes de son ascendant, n'ont jamais cherché à l'inquiéter. Après la mort de Léopold, dont le corps ne put être retrouvé parmi les anonymes et épouvantables décombres, Clotilde avait tenu à se conformer à celui des préceptes évangéliques, dont l'observation rigoureuse est jugée plus intolérable que le supplice même du feu. Elle avait vendu tout ce qu'elle possédait, en avait donné le prix aux plus pauvres, et, du jour au lendemain, était devenue une mendiante. Ce que durent être les premières années de cette existence nouvelle, Dieu le sait. On a raconté d'elle des merveilles qui ressemblent à celles des saints. Mais ce qui paraît tout à fait probable, c'est que la grâce lui fut accordée de n'avoir jamais besoin de repos. « Vous devez être bien malheureuse, ma pauvre femme, » lui disait un prêtre qui l'avait vue tout en larmes devant le Saint-Sacrement exposé et qui, par chance, était un vrai prêtre. « Je suis parfaitement heureuse, » répondit-elle. « On n'entre pas dans le paradis demain, ni après-demain, ni dans 10 ans. On y entre aujourd'hui, quand on est pauvre et crucifié. » « Odi mecumeris in paradiso, » murmura le prêtre, qui s'en alla bouleversé d'amour. À force de souffrir, cette chrétienne vivante et forte a deviné qu'il n'y a, surtout pour la femme, qu'un moyen d'être en contact avec Dieu, et que ce moyen tout à fait unique, c'est la pauvreté. Non pas cette pauvreté facile, intéressante et complice qui fait l'aumône à l'hypocrisie du monde, mais la pauvreté difficile, révoltante et scandaleuse, qu'il faut secourir sans aucun espoir de gloire et qui n'a rien à donner en échange. Elle a même compris, et cela n'est pas très loin du sublime, que la femme n'existe vraiment qu'à la condition d'être sans pain, sans gîte, sans amis, sans époux et sans enfants, et que c'est comme cela seulement qu'elle peut forcer à descendre son sauveur. Depuis la mort de son mari, la pauvresse de bonne volonté est devenue encore plus la femme de cet homme extraordinaire qui donna sa vie pour la justice, parfaitement douce et parfaitement implacable. Affiliée à toutes les misères, elle a pu voir en plein l'homicide horreur de la prétendue charité publique, et sa continuelle prière est une torche secouée contre les puissants. Lazare Druide est le seul témoin de son passé qui la voit encore quelquefois. C'est l'unique lien qu'elle n'ait pas rompu. Le peintre d'Andronique est trop haut pour avoir pu être visité de la fortune dont la pratique séculaire est de faire tourner sa roue dans les ordures. C'est ce qui permet à Clotilde d'aller chez lui, sans exposer à la boue d'un luxe mondain ses guenilles de vagabonde et de pèlerine du Saint-Tombeau. De loin en loin, elle vient jeter dans l'âme du profond artiste un peu de sa paix, de sa grandeur mystérieuse, puis elle retourne à sa solitude immense au milieu des rues pleines de peuple. « Il n'y a qu'une tristesse, » lui a-t-elle dit la dernière fois, « c'est de n'être pas des saints. »